pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Ce projet de Green Dock, il est relié à un méga projet plus large. C'est là que ça peut devenir un truc comme la 69 ou le méga canal. C'est un truc qui s'appelle Aropa, pour le Havre, Rouen, Paris. Et c'est l'idée d'utiliser la Seine comme un axe logistique et de créer une espèce d'autoroute fluviale là-dessus et de faire plein d'entrepôts partout sur tous ces territoires-là.
Aropa, encore un gigantesque projet inutile et monstrueux. Salut les amis, c'est JBD pour Polémix et lavoixoff.com et pour votre radio libre préférée. On va aujourd'hui passer l'heure à venir avec un opposant à Green Dock, projet d'un immense entrepôt inutile et nuisible sur le port de Gennevilliers, à 5 km de Paris. Green Dock, qui n'a rien de vert, n'est même pas destiné au transport fluvial, mais au fret de 2500 camions par jour selon l'estimation. Cette horreur Green Dock, en pleine ville, ne serait que l'une des pièces du délirant projet Aropa, détruire des milieux et des terres agricoles, transformer des cours d'eau en autoroutes fluviales, bien rectilignes, bordées de plateformes logistiques et autres installations industrielles. Et il est donc logique qu'on parle à nouveau ici aussi du mortifère méga-canal Seine-Nord-Europe, car tous ces grands projets inutiles sont liés entre eux au service de l'empire logistique.
Ce dont on veut pas, c'est l'empire logistique. Donc l'empire logistique, c'est ces flux là qui nous passent au-dessus et dont profitent les grands groupes. Une origine et une continuité coloniale, prendre la richesse à des endroits loin sur la planète et à la ramener chez nous, bref, il y a une vraie logique coloniale dans tout ça. Donc l'empire logistique, c'est ce qu'on veut pas. Nous, ce qu'on a besoin, en Ile-de-France, c'est particulièrement fort, c'est de l'approvisionnement. On va pas, nous, se mettre à fabriquer tous nos objets et à consommer tous nos légumes, on vit dans une zone qui est hyper urbanisée. Donc on a besoin d'approvisionnement. Donc nous, on met en place, par exemple, un contre-projet, c'est le cas aussi pour Méga-Canal, pour que ces zones-là servent à des formes de logistique qui nous aident. Et c'est pas de la logistique, c'est de l'approvisionnement. Nous, sur le port de Gennevilliers, on voudrait qu'il y ait un emplacement pour un entrepôt de la sécurité sociale de l'alimentation. Ça, il y a besoin de logistique pour acheminer les légumes jusque chez nous. Mais pas un énième entrepôt d'un promoteur immobilier qui va louer des sous-traitants logistiques, on sait même pas ce qu'ils vont faire à l'intérieur. Pas ce genre de logistique.
Octobre 2025, après la traversée de Paris sur la Seine, l'expédition Bateau Labo fait escale sur l'île Saint-Denis dans le 93 et s'amarre à une péniche. Bateau Labo, c'est un équipage de marinières et de mariniers, scientifiques, artistes, qui naviguent en direction du Danube à bord de la Fillonnerie, chaland de Loire en bois tel qu'on les faisait au 19e siècle. Un bateau parti de Région Centre en septembre 2025. Et c'est à l'occasion d'une conférence organisée par Bateau Labo qu'on rencontre l'un des membres du collectif Stop Green Dock. Bonjour.
Bonjour et bonjour à toutes celles et ceux qui nous écoutent.
Alors Green Dock, c'est quoi ?
Green Dock, c'est un projet d'entrepôt géant. Vraiment géant, ça fait 600 mètres de long et 35 mètres de haut sur les berges de Seine. Vraiment collé à la Seine, c'est à 4 mètres de l'eau au plus proche des constructions. Et projet d'entrepôt, alors qui s'appelle Green Dock, c'est vraiment un greenwashing éhonté. Comme on le voit souvent, c'est absolument pas green, c'est un entrepôt logistique, une usine à camions, ce qui est prévu par le promoteur immobilier lui-même, parce que c'est un promoteur immobilier qui veut le construire. C'est 2500 véhicules jour. Et donc beaucoup de camions, donc c'est absolument pas green. Et c'est même pas dock, en fait ils ont appelé ça green dock parce qu'au début c'était présenté comme un entrepôt fluvial pour faire du transport fluvial avec l'idée que forcément c'est bien le transport fluvial, ce qui peut être le cas mais pas toujours. Mais là c'est même pas fluvial, en fait c'était vraiment pour faire passer la pilule que ce terme a été utilisé. Maintenant on sait qu'il y a moins de 10% de fluvial, tout le reste c'est du camion. Et donc depuis 2-3 ans maintenant, il y a une lutte locale qui s'est montée autour de ce projet d'entrepôt géant, qui est peut-être moins connu que la 69 ou Méga Canal, parce que c'est quand même moins gros, c'est pas une infrastructure à l'échelle nationale, mais c'est quand même une infrastructure logistique, et de ce point de vue-là, ça fait bien la connexion entre ces luttes-là. L'empire logistique, c'est un terme qu'on utilise beaucoup, est en train de ruiner nos vies et nos espaces de vie, et ça vaut aussi pour le 93 où on est, là, donc en pleine banlieue nord, tout près de Saint-Denis, des territoires de résistance et de lutte qui sont bien connus, moins connus pour les sujets écolos, mais ça y est, c'est parti là.
Cette conversation a lieu fin octobre 2025, 15 jours après la grande mobilisation anti-mégacanal de Longueuil-Annel, dont cette émission vous a déjà beaucoup parlé et dont on va reparler maintenant. Car il y a évidemment des rapports entre Green Dock et le grand canal Seine-Nord Europe. Ces deux grands projets d'infrastructures inutiles et hors de prix ont aussi en commun d'être imposés de force dans un assourdissant silence médiatique. Quasiment personne n'a entendu parler ni de Green Dock, ni de méga-canal à 10 milliards d'argent public. Silence radio.
Ouais, mais ça, c'est un des enjeux du rapport de force et des luttes locales, quoi. C'est de faire connaître des projets pour lesquels tout est fait pour que ça passe sous les radars, quoi. Pour donner un exemple, Green Dock, nous, c'est des riverains qui se sont rendus compte de l'existence de ce projet, un peu par hasard. C'était annoncé nulle part. Et maintenant, localement, c'est quand même un sujet. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde est au courant, mais c'est un sujet. C'est discuté dans plein d'espaces. Et je pense que c'est le cas aussi du méga-canal. Le méga-canal, c'est vraiment un projet d'envergure nationale. Et le coût là, des 10 milliards va faire que d'une manière ou d'une autre, si la lutte continue, et ce sera le cas, bah, ça va finir par être connu, tout comme le 69 est devenu un sujet national, comme avant, le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes était devenu un sujet national. Moi, je m'inquiète pas trop, on sait faire, mais on part toujours de loin. Parce que c'est volontaire, quoi. Il n'y a aucune volonté de donner un peu place aux habitants sur les territoires pour décider de si oui ou non ils veulent ou pas de ces grands projets-là, quoi.
Le projet Green Dock, c'est de l'argent public ?
Non, Green Dock, c'est de l'argent privé. C'est un promoteur immobilier qui va faire de la financiarisation. Ce qui est public, c'est qu'il utilise un espace, les berges de Seine, dont on profite toutes et tous ici. Franchement, en banlieue nord, des espaces de nature, il n'y en a pas beaucoup. Celui-ci, il est joli. Juste en face de l'entrepôt, il y a une zone Natura 2000 avec une réserve ornithologique. C'est la seule zone Natura 2000 de la petite couronne. Donc, c'est pas de l'argent public, mais ça bouffe quand même de l'espace public.
Du commun, donc.
Ça bouffe du commun, voilà, c'est ça. Mais par contre, ce qui est intéressant dans ce que tu disais, cette idée qu'en fait, c'est complètement déconnecté au territoire. Parce qu'il y a toujours l'idée qu'on va sauver des territoires perdus avec ce genre de grands projets, en créant des emplois, de l'activité, etc., etc. Et en réalité, c'est vraiment pas le cas. Alors déjà, ça crée pas beaucoup d'emplois pour beaucoup d'argent. Et puis, c'est souvent des emplois pourris. Hein. Méga-canal et Green Dock, c'est des emplois dans la logistique, dans les entrepôts logistiques. C'est le secteur où il y a le plus d'accidents du travail et de maladies professionnelles en France. Le secteur où il y a le plus d'intérim. C'est un secteur hyper pénible, où il n'y a pas d'évolution de carrière possible, très ouvrier. Et en fait, il y a vraiment un délire quand même des décideurs publics de se dire, voilà, on a ces territoires perdus, périphériques, ils les appellent comme ils veulent, à qui on va refiler des activités un peu pourries. Et c'est déjà une vision des territoires qui est vraiment dégueulasse. Et puis en plus de ça, la déconnexion, c'est aussi... Donc tout ça, c'est de l'infrastructure logistique, c'est du flux. Mais les flux qui sont censés passer par ces espaces-là, ils ne sont pas liés au territoire. Dans quel sens ? Je dis ça parce que souvent, nous, on nous répond, ah ouais, entrepôt géant, mais on n'a qu'à arrêter de commander des colis. Bon, c'est vrai, on peut arrêter de commander des colis, mais en fait, c'est pas ça le but de ces infrastructures, c'est pas ça leur principale utilité. Green Dock, c'est un hub logistique qui va recevoir des flux qui viennent de très loin, qui vont être stockés dans l'entrepôt et qui vont repartir très loin. Donc en fait, les grands groupes, ils utilisent ça pour diminuer leur coût de transport, c'est leur business à eux, c'est pas forcément connecté à nos modes de vie, et même nos modes de vie pas très cool, c'est-à-dire commander des produits Amazon. Et c'est pareil pour le canal Seine-Nord Europe, ce truc, il est destiné à exporter des céréales à l'international. Et donc ça n'a pas du tout d'intérêt du point de vue de l'approvisionnement du territoire, du point de vue de la relocalisation même, ça empêche de relocaliser tout ça. Et donc il y a vraiment une déconnexion totale. Et c'est cool de la souligner et de ne pas toujours dire que c'est notre faute parce qu'on commande des colis ou parce qu'on utilise la logistique. Alors on a besoin un peu de logistique, mais la logistique qu'ils font eux, c'est vraiment rien à voir avec ce qui se passe sur un territoire.
On voit ça autour de tout ce qui est grand projet inutile. On y va, on passe en force. Avec un peu de chance, les citoyens, citoyennes ou les gens ne s'en rendront pas compte et seront mis devant le fait accompli. Peu importe ce que pourrait dire je ne sais quel tribunal administratif, le temps que des citoyens et citoyennes et que des gens se réveillent, les travaux seront déjà finis. On l'a vu par exemple sur la 69, sur les bassines par exemple, une fois qu'elles étaient finies, remplies, le tribunal administratif a dit non, c'est illégal. Et là, c'est la même méthode aussi.
Nous, on est quand même dans une situation un peu différente pour l'instant que la 69 ou le méga-canal, par exemple, parce que c'est encore un projet local. Et pour l'instant, c'est le maire de Gennevilliers qui porte ce projet. Il s'appelle Patrice Leclerc. Vous irez lui faire coucou si vous voulez. Et Patrice Leclerc, en fait, c'est un maire communiste qui, par ailleurs, sur sa commune, défend des choses qui sont intéressantes. Par exemple, c'est un grand soutien de la Palestine, etc., etc. Donc nous, le combat, il est un peu différent de ce point de vue-là. Ce maire, il croyait sûrement à son projet au début. Il y croit de moins en moins. Il a fait plein de déclarations publiques suite à la mobilisation. Le rapport de force l'a un peu isolé. Comme quoi, bon, peut-être qu'il n'allait pas déposer le permis de construire. Tous les gens autour de lui, la CGT, les syndicats, tout le monde lui a dit qu'il faut arrêter. C'est une manière de montrer aussi que l'emploi, ça ne marche pas. Parce que nous-mêmes, les gros syndicats, ils sont contre le projet d'entrepôt géant. Et donc, nous, on espère encore qu'il peut basculer. On a vraiment cette idée que possiblement, il peut revenir vers nous et se dire « Ok, c'est bon, on arrête et on espère qu'on peut gagner cette lutte comme ça ». Après, ce qui peut se passer, c'est que lui, il peut refuser de déposer le permis de construire. Ça va jouer dans les mois à venir, là. Et par contre, ce projet de Green Dock, il est relié à un méga projet plus large. C'est là que ça peut devenir un truc comme la 69 ou le méga canal. C'est un truc qui s'appelle AROPA. AROPA, c'est pour le Havre-Rouen-Paris. Et c'est l'idée d'utiliser la Seine comme un axe logistique. Il y a vraiment cette vision que la Seine est un axe et de créer une espèce d'autoroute fluviale là-dessus et de faire plein d'entrepôts partout sur tous ces territoires-là. Et ça, ce projet, il est porté par Édouard Philippe. Il est soutenu par l'État. Et là, possiblement, ce qui pourrait se passer, c'est que si le maire refuse de signer le permis de construire, ce qu'on espère, on pourrait basculer dans une autre phase où, en fait, AROPA, Édouard Philippe et tous ces grands méchants-là forcent. Et on basculerait dans un autre rapport de force, quoi. Mais pour l'instant, on n'est pas encore là.
Mais ce ne serait pas un projet qui serait aussi un peu en concurrence avec le méga canal? Enfin, ils veulent en faire partout et ils se tirent la bourre entre eux, c'est ça? Et entre gens supposés être du même camp en plus.
Ouais, bah, au départ, ils étaient très fâchés hein, parce que donc Édouard Philippe, il avait son projet AROPA, le Havre en Paris. Et l'autre côté, du côté du Nord, c'était Xavier Bertrand qui avait son projet du canal Seine-Nord-Europe. Dans les deux cas, l'idée, c'est de créer un méga corridor logistique pour concurrencer le port de Rotterdam. Alors déjà, séparément, pour chaque projet, cette idée est complètement absurde. Ils ne vont jamais atteindre ce truc-là, parce qu'on n'atteint pas comme ça des volumes de flux en claquant des doigts, quoi. Donc c'est pas possible. Mais les deux en même temps, ça n'a plus aucun sens, parce que les deux vont se faire concurrence. Donc au départ, ils étaient très fâchés l'un contre l'autre à cause de ça. Et puis, depuis un moment, il semblerait, enfin on le sait en fait, hein, qu'ils se soient mis d'accord pour ne pas se taper l'un sur l'autre et pour faire les deux. Et les deux ensemble, ça n'a vraiment... aucune raison d'être, ça n'arrivera, enfin ils vont jamais réussir. Enfin ils vont le faire, mais en fait ce sera sous-utilisé, c'est des infrastructures qui sont destinées à finir dans les ruines du capitalisme.
L'argument de « oui mais le fluvial c'est cool, c'est écolo, ça fait moins de camions », c'est complètement faux. Les méga canals non merci en fait ont estimé qu'au mieux si ce canal méphitique se faisait, au mieux on aurait le même nombre de camions qu'aujourd'hui. Parce que comme tu le disais, sur tout le trajet, il y a des infrastructures, il y a des ports, et bien sûr ces ports sont desservis par des camions.
Ben oui, c'est tout le truc quoi. Alors déjà, il y a un truc qui est vraiment intéressant à comprendre pour le méga canal en particulier, c'est qu'on ne met pas du tout les mêmes marchandises sur les camions que sur les bateaux. Sur le fluvial, on transporte du vrac. Et le vrac, aujourd'hui, le très très gros du volume, c'est des céréales pour l'export. Donc ça, c'est l'agro-industrie qui joue avec ça. Et du BTP. Dans un sens, du sable, à Paris, c'est très fort. Hein, du sable pour le Grand Paris et des gravats qui ressortent dans l'autre sens, quoi. Donc c'est pas les mêmes types de flux. Et puis de toute façon, sur tous ces projets-là, aujourd'hui, il n'y a pas du tout l'idée de remplacer un mode de transport par un autre. La seule vraie idée, c'est de faire toujours plus de logistique. Donc même quand c'est du fluvial, si la logique c'est faire plus de logistique, à la fin ça accélère les bateaux, oui il y aura plus de bateaux, mais il y aura aussi plus de camions, plus de logistique, plus de pollution, plus de CO2, plus aussi de consommation très lointaine et moins de relocalisation. La logistique ça empêche la relocalisation. Donc nous ce qu'on n'arrête pas de dire c'est que l'enjeu c'est de transformer la logistique. Pour ça on utilise deux termes, on dit ce dont on veut pas c'est l'empire logistique. Donc l'empire logistique c'est ces flux là qui nous passent au-dessus et dont profitent les grands groupes, avec aussi... une origine et une continuité coloniale, c'est pour ça le terme empire il est pas mal, parce que ça sert à prendre la richesse à des endroits loin sur la planète et à la ramener chez nous. Bref, il y a une vraie logique coloniale dans tout ça. Donc l'empire logistique, c'est ce qu'on veut pas. Nous, ce qu'on a besoin, en Ile-de-France, c'est particulièrement fort, c'est de l'approvisionnement. On va pas, nous, se mettre à fabriquer tous nos objets et à consommer tous nos légumes. On vit dans une zone qui est hyper urbanisée. Donc on a besoin d'approvisionnement et donc nous, on met en place, par exemple, un contre-projet. C'est le cas aussi pour Mégacanal. Pour que ces zones-là, qui sont des zones industrielles qu'on ne va pas renaturer du jour au lendemain, mais qu'elles servent à des formes de logistique qui nous aident. Et ce n'est pas de la logistique, c'est de l'approvisionnement. Par exemple, truc très simple, nous, sur le port de Gennevilliers, on voudrait qu'il y ait un emplacement pour un entrepôt de la sécurité sociale de l'alimentation. Vous savez, ce système-là qui permettrait à tout le monde de trouver des légumes à pas cher comme la sécurité sociale. Et ça, il y a besoin de logistique pour acheminer les légumes jusque chez nous. Et donc ça, on veut bien qu'il y ait un entrepôt de la SSA sur le port de Gennevilliers, mais pas un énième entrepôt d'un promoteur immobilier qui va louer des sous-traitants logistiques, on ne sait même pas ce qu'ils vont faire à l'intérieur. Pas ce genre de logistique, quoi.
Ça fait plusieurs fois que tu fais référence à un « nous ». Qui est ce « nous » ?
Alors, c'est un « nous » multiple. Le « nous », c'est les riverains. Donc, moi, j'habite ici et donc je fais partie des riverains qui sont opposés à ce projet. Donc, il y a un collectif qui s'appelle « Stop Green Dock ». Et dans Stop Green Dock, il y a plein de monde, il y a des riverains, des associations environnementales. Et donc il y en a plein, je ne vais pas toutes les citer, ça va être un peu long. Mais il y a aussi les soulèvements de la terre, le comité local des soulèvements de la Terre dont moi je fais partie, qui s'appelle Pleine Tempête, qui est le comité de la banlieue nord.
Pleine, il y a un jeu de mots, hein, PLAI.
Voilà, c'est la Plaine Saint-Denis, qui était une plaine agricole anciennement. Et donc Pleine Tempête, c'est un comité qui s'est beaucoup investi sur cette question-là de Green Dock au départ, mais qui très vite a souhaité de ne pas s'arrêter juste à un projet d'entrepôt pour éviter un peu cet effet NIMBY, là, not in my backyard, donc ok, les entrepôts, mais pas chez moi. Nous, en fait, on s'est intéressé au sujet de la logistique d'une façon beaucoup plus large, et ça a donné plein de choses différentes. Ça a donné un soutien aux ouvriers de la logistique. On a beaucoup soutenu les grèves sur le port de Gennevilliers. Et donc, dans le nous, il y a aussi la CGT. La CGT du 92 et du 93. Solidaire aussi dans le 92 et le 93. Se sont impliqués dans cette lutte-là. Et nous, on a appris plein de choses à faire des alliances avec les ouvriers. Et en plus, on a des choses qu'on partage, du genre aimer bloquer le port de Gennevilliers et les entrepôts. Et donc, il y a aussi ça dans ce nous-là. Dans le nous aussi, il y a les autres luttes qui sont sur le bassin versant de la Seine et qui ont toutes, et c'est vraiment l'infrastructure du capitalisme qui fait ça, toutes les luttes avec lesquelles on travaille sur le bassin de la Seine, on a tous un problème avec la logistique. Donc il y a le méga canal, on en a parlé. Il y a une lutte aussi à Labassé, c'est au sud de la région parisienne, où il y a une volonté de rectifier la Seine. C'est un endroit où la Seine fait des méandres, ils veulent la rectifier pour faire passer des plus gros bateaux. Il y a la lutte de Gonesse aussi. À Gonesse, il y a un projet d'artificialisation depuis longtemps et une lutte très ancienne qui se mène là-bas. Et ce grand nous, maintenant, on l'appelle les soulèvements de la Seine. Et l'acte du méga canal dont tu parlais, c'était l'acte final d'une campagne d'action, d'une saison, qui s'appelait les soulèvements de la Seine, dans laquelle étaient représentées toutes ces luttes.
Et je veux redire que cela relève de l'écoterrorisme.
Avec des modes opératoires qui relèvent, je n'ai pas peur de le dire, de l'écoterrorisme que nous devons absolument combattre.
Malgré ce que des gens nauséabonds ont pu dire là au sujet donc des luttes environnementales, le verbiage crétin de éco-terroriste. Alors, ça nous faisait ricaner il y a quelques années, puis en fait, de constater aujourd'hui que ça prend dans les têtes. Donc, ne ricanons pas trop. Mais on a bien compris que les soulèvements de la Terre, tout ça, sont des gens qui travaillent sans armes. Et l'idée, c'est bien de remporter, alors, je ne sais pas si j'ai le bon terme, mais disons la bataille de l'opinion publique.
Rebondir un peu sur éco-terrorisme, parce qu'il y a un enjeu important sur ces histoires de criminalisation des luttes et d'accusations de terrorisme. C'est important de dire que ce n'est pas les écolos qui ont été accusés en premier. C'est d'abord les luttes des quartiers, les luttes des quartiers populaires, les luttes pour la Palestine en ce moment qui sont accusées de ça. Et que c'est hyper important de construire des ponts entre tout ça, parce que c'est toujours eux, elles et eux, qui sont touchés les premiers. Nous, il faut être là pour les soutenir. Et puis on voit que de toute façon, nous aussi, ça finit par nous toucher, par ricochet. Mais il y a des très gros enjeux de se tenir ensemble aussi sur ces terrains-là.
Pour reprendre la chronologie de l'histoire de cette lutte particulière donc contre Green Dock, tu disais ce sont des riverains, habitantes et habitants, qui ont découvert le truc quasiment par hasard. C'était quand et ça s'est fait comment?
Alors ça s'est fait en 2021-2022, les toutes premières informations qui ressortent, quoi. Et donc, au début, on ne sait presque rien. Quand les premières infos ressortent, il me semble que c'est début 2022, il y a vraiment ce truc de c'est un entrepôt fluvial. Et c'est présenté comme ça partout. Et ce qui fait tiquer quand même les riverains, c'est la taille. Même si c'est fluvial, un entrepôt de 35 mètres de haut, ça les fait réagir. Donc à l'époque, c'est ça qui lance un peu la lutte locale. Et avec ce problème que c'est 35 mètres de haut, juste en face d'une zone Natura 2000. Le projet d'entrepôt est tellement haut qu'il va mettre sous l'ombre la zone Natura 2000 toute une partie de l'année. Il y a eu plein d'études qui ont été faites, d'abord par nous sur ça, après par l'autorité environnementale, qui est une autorité indépendante. Et en fait, la réserve ornithologique avec tous les oiseaux qui sont sur place, avec l'entrepôt, elle n'existe plus, quoi. C'est très clair. Donc c'est un peu ça qui a lancé la lutte au départ. Et puis petit à petit, les informations sont remontées. Mais là, il a fallu aller les chercher. Il y a eu des demandes des rendez-vous avec le promoteur, avec les gestionnaires du port de Gennevilliers, avec Aropa et tout ça. Et plus les rendez-vous avançaient, plus le truc tombait, quoi. On se rendait compte que niveau travail, c'était pas terrible, que de toute façon, c'était même pas du fluvial, que la renaturation des berges, ils avaient promis ça au début. Ils avaient dit, on va faire un bel entrepôt et on va renaturer toute la berge le long de l'entrepôt. Aujourd'hui, on sait que la construction, les constructions vont approcher jusqu'à 4 mètres de l'eau. Quand t'as 4 mètres entre l'eau et le bâtiment, renaturer les berges, c'est une grande blague. Et tout est tombé comme ça. Et donc aujourd'hui, il n'y a plus grand monde pour défendre ce projet-là.
Mais ils ont répondu parce que vous avez posé des questions ou ils ont organisé des réunions d'information publique?
Il y a eu des réunions d'information publique, mais qui ont été exigées par les riverains. À chaque fois, à chaque étape, c'est toujours la mobilisation qui a obtenu des espaces de discussion. Et à chaque fois, ces espaces de discussion, c'est une vaste blague. Par exemple, au tout début du projet, il était prévu une ferme urbaine. Il fallait vraiment que ce soit green, donc ils avaient prévu une ferme urbaine. Mais la ferme urbaine, ça faisait monter le bâtiment encore plus haut. Dès les premières réunions, ils ont dit « Bon, on a compris, vous n'êtes pas contents les riverains, on vous fait une concession, on enlève la ferme urbaine et on diminue de quelques mètres le bâtiment. » Et ils ont présenté ça comme « Voilà, regardez, vous avez gagné. »
C'est hyper généreux en fait de leur part.
C'est incroyable. Je pense qu'elle n'a jamais existé cette ferme urbaine. C'était un truc qui était tout prêt dès le début pour la négociation. Et donc voilà, il y a toujours des espaces où on nous fait croire qu'on peut discuter, mais en réalité, c'est le rapport de force qui a fait bouger les choses. Et le fait que de plus en plus de monde se mobilise localement, il y a eu plein d'actions, plein de manifestations. Une grosse manifestation, notamment, où il y a eu 2000 personnes en 2024 à Gennevilliers, avec des actions de blocage logistique, etc., etc. Et ça devient un vrai sujet, quoi.
C'est ça qui est évoqué dans Première Secousse, le bouquin des soulèvements, cette grosse manifestation?
Ouais, c'est ça, ouais. C'est l'acte Green Dog qui est évoqué. Avec peut-être une particularité, c'est que dans les grands actes nationaux qui étaient portés par les soulèvements, Green Dog, c'était le premier, je crois, qui était vraiment dans une zone urbaine dense, sur un projet qui était un peu différent de ce qu'on voit d'habitude. C'était une manif qui n'était pas une manif à la campagne comme les Bassines ou d'autres manifs de ce type. C'était une manif dans le 92 et 93, on est à la frontière en banlieue nord de l'Île-de-France. Et nous, quand on a commencé à penser cet acte-là, il y a eu toute une réflexion de se dire... En fait, c'est quoi les soulèvements dans le 93? Parce que les soulèvements dans les Bassines, on voyait bien, dans le Poitou, on voyait bien, mais dans le 93, c'est un peu autre chose. Et donc voilà, assez vite, en fait, dans cette réflexion, c'est la logistique qui est ressortie comme le truc qui ferait sens pour les soulèvements dans une banlieue nord, avec cette idée que dans la métropole, les flux logistiques, c'est là qu'on peut aussi attaquer l'infrastructure, faire bouger des choses et chercher un point concret où faire peser un rapport de force.
L'une des nombreuses choses qui ressortent dans cette lutte Stop Green Dock, c'est cette alliance et cette rencontre entre des personnes militantes de divers horizons et le monde du travail, le monde ouvrier et le monde syndical. Maintenant, ça me revient. C'était d'ailleurs assez émouvant à lire parce qu'on aurait pu se dire que tout ça, c'était des univers, l'écologie de gauche radicale et puis les camarades prolétaires qui luttent pour leur pouvoir d'achat et tout ça est très compartimenté. Une convergence et une vraie rencontre. Et c'était très bien raconter dans le bouquin.
Ouais, c'est une super rencontre avec plein de blagues, comme tu l'as dit. T'as dit rencontre entre écolo et ouvrier, mais la nouvelle blague, c'est qu'eux disent sans arrêt, quand on se voit sur des piquets, ils disent « Mais c'est nous les vrais écolos !» Et nous disent « Mais non, c'est nous les écolos !» Enfin, il y a des blagues comme ça qui se sont... C'est une super rencontre. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dès le début, nous, on s'est dit « On va aller voir l'union locale de Gennevilliers, l'union locale CGT. » En sachant qu'elle a une belle histoire, cette union locale, que certaines d'entre nous la connaissaient déjà. C'est une union locale un peu anarcho-syndicaliste, en réalité, je ne sais pas s'ils seraient d'accord avec le terme, mais qui a toujours mené des combats ouvriers sur le port et à d'autres endroits dans Gennevilliers. Et quand on a été les voir, nous, on marchait sur des œufs quand même. Qu'est-ce qu'ils vont dire de cette histoire d'entrepôt logistique? Et en fait, pas du tout. Hein. Toutes nos inquiétudes ou petits stress en fait, se sont très vite tombés. Eux, on leur a expliqué c'était quoi le projet d'entrepôt. Et très vite, ils ont dit « Ok, c'est de la merde, qu'est-ce qu'on fait ?» Par exemple, c'est eux qui nous ont poussés à mener le contre-projet sur le port de Gennevilliers. Et dire « Faut pas rester juste à cet entrepôt-là, on va parler de tout le port de Gennevilliers. » Et donc, dès le début, ça a été vite et ça a été très vite. Et puis, eux sont venus, donc les ouvriers, en particulier les ouvriers d'un très gros entrepôt du port et d'une très grosse boîte française, c'est le leader de la logistique en France, qui s'appelle Geodis. Et les ouvriers de Geodis Gennevilliers sont venus quand on a fait notre manif en 2024. Ils étaient à la manif, ils sont venus au débat avant. Ils ont participé, ils ont mené des actions. On a réfléchi à des actions avec eux à ce moment-là déjà. Et c'était déjà une super rencontre autour du blocage et du feu de palette, qui est vraiment un point de rencontre pour nous qui marche très très bien. Puis après, la rencontre elle s'est faite dans l'autre sens. Elle s'est approfondie dans l'autre sens. Cette année-là, en 2025, en février-mars, eux, ils ont mené une grosse grève d'un mois. Un mois de grève dans un entrepôt logistique, c'est très rare. Mmh. Un entrepôt logistique en banlieue nord. Hein, donc
quelle était leur revendication salariale?
C'était les salaires. Les salaires sont hyper bas. Comme ils sont forts, c'est un entrepôt, ils sont forts. Il y a 90% CGT, ils ont l'habitude de mener des gros combats. Ils demandaient, je crois que c'était 200 euros de salaire et ils ont obtenu 150. Okay. Sur un mois de grève, quand même, ça valait le coup. Et en fait, nous, on a beaucoup, dès le début, été en soutien de cette grève. On a mené des actions en soutien à cette grève, des actions de blocage de l'entrepôt. Et ça, c'est un mois de rencontres et d'intensité très, très fort. Il faut imaginer, c'est une énorme zone. C'est pas un port, hein, c'est que des camions. C'est une énorme zone logistique dont on se retrouvait à passer des nuits entières parce que ça travaille beaucoup la nuit sur le port de Gennevilliers avec elle et eux à manger des merguez et progressivement des saucisses véganes qu'on avait ramenées parce que chez nous, tout le monde mange pas de viande. Ce qui est de nouveau l'objet d'une blague. blague. Et on y est retourné encore cette semaine. Là, mercredi, il y avait un rassemblement. Ils ont gagné leur grève, mais les patrons, ils sont mauvais joueurs dans la logistique. Donc, il y a plein de répression dans l'entrepôt. Il y a eu des sanctions, des licenciements. Donc, on a refait un rassemblement cette semaine. Et au rassemblement de cette semaine, il y a les greniers des soulèvements de la terre qui ravitaillent les luttes, qui sont venus rapporter des cagettes de légumes récupérées chez des maraîchers camarades de l'Île-de-France. Le piquet de grève a été ravitaillé comme ça, en poireaux, tomates, il y avait des pommes, etc. Il y avait plein de trucs, quoi. Et à chaque fois, voilà, on passe des caps avec elle et eux, et c'est toujours très chouette, quoi.
Les greniers, c'est des gens, comme tu le disais, des maraîchers ou tout simplement des gens qui s'y mettent et qui, ici et là, cultivent de la terre pour produire des légumes, pour alimenter les luttes. Donc c'est très chouette, quoi. Il y a une vraie rencontre, une vraie alliance, et qui perdure, quoi, jusqu'à là, au moment où on se parle, quoi.
C'est vraiment génial. Dans la semaine, et puis comme il y a le contre-projet qui est en cours, on se voit très régulièrement pour ça, parce que nous, le point de départ du contre-projet, on se méfie un peu des contre-projets qui partent du haut. Il y a un peu un réflexe à faire les urbanistes quand on fait des contre-projets, parce qu'on a l'impression que c'est plus sérieux quand ça ressemble à un rapport, à un document d'urbaniste. Nous, on est parti d'un truc, on veut essayer de faire, on appelle ça de la planification par le bas. Et ça veut dire qu'on rencontre les ouvriers pour leur demander comment ça marche. Cette idée que c'est eux qui ont le savoir-faire sur la logistique qui permettra de transformer les infrastructures, de les supprimer quand il faut les supprimer, mais de les transformer quand on peut les transformer. Donc on passe beaucoup de temps avec elle et eux là-dessus, sur des détails techniques parfois, du transport, sur le fret ferroviaire. Il faut s'imaginer, le port de Gennevilliers, c'est traversé par des rails. Il y a toute l'infrastructure qu'il faut pour amener des trains, et il n'y a plus de trains. Il y a un train de temps en temps qui passe, c'est ridicule, alors que le port est énorme, alors qu'il y a encore 10 ans, il y en avait. Ça a diminué et maintenant, ça a presque disparu. Et donc, eux, ils connaissent l'histoire de ça. Ils savent quand est-ce que tel train a disparu, quand est-ce que tel embranchement s'est arrêté. Et donc, on bosse avec eux là-dessus, quoi.
Bon, là, tu m'as tendu une perche en béton armé pour passer un petit bout de planète boum boum, hein, du fret, avec notamment Julien et ses camarades de Sudrail.
Qui participent aussi au contre-projet de Green Duck.
Voilà. Planète boum boum.
La clientèle libérale, le chef Macron la régale. Service public étoilé devient buffet à volonté. Le privé a toujours faim, il veut même bouffer nos trains. Pour que le capital graille, la SNCF déraille. Nous, on a des goûts basiques, on aime le service public. Les bonnes recettes de grand-mère, on veut du fret ferroviaire. Du fret, du fret, du fret, du fret, du fret. Du fret ferroviaire, du fret, 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 du fret ferroviaire.
Il y a toujours une bonne occasion de passer du planète boum boum.
On a des playlists logistiques aussi, si tu veux. Il y a eu tout un truc avec la logistique et le rap français depuis 10-15 ans. Il y a plein de tubes du rap français qui parlent de logistique. Les rappeurs français, ils ont parlé de la logistique et des entrepôts avant que ça devienne un sujet médiatique, avant qu'on parle d'Amazon et tout. Ils en ont parlé en premier. En gros, ils ont remplacé la figure de l'ouvrier traditionnel qui était celui de l'usine automobile, le travail à la chaîne, dans leurs paroles, par les entrepôts, les palettes et les transpalettes, avant que ce soit un sujet d'actualité.
T'enfiles tes pompes de sécu, depuis combien de temps tu sais plus. Tout ce que tu sais c'est que les plumes que t'y laisses repousseront plus. T'es sur les jantes, les rotules, et face au vent tu recules. Face aux gens tu refuses, ces mains qui te sont tendues. Tu bois encore, tu refumes, tu trouves pas mieux comme refuge. Les bras de ta femme te répugnent, même quand t'en as plein les purs. Infranchissable, t'as pris la vie comme une dune. Que tu te vois plus grimper, les chaussures pleines de sable. Tu vois que le verre à moitié vide, ta vie comme de la merde. Et le quotidien va pas dans ton sens, comme ta fiche de salaire. T'affiches une mine détestable, un air excès. Et ta mauvaise humeur empiète sur ta vie familiale. T'as perdu le sourire de tes mômes, tu n'as plus que leur soupir. Ton corps est un hématome qui n'a pas fini de pleuvoir. Ta présence est un poids lourd comme ces camions que tu vis. Donc ta moitié s'en est allée pour avoir une chance de vivre. Tous les matins ton réveil est un pénible effort. Coupé dans ces rêves où tu roulais sur l'or. Tu montes dans ta voiture un triste décor. Des fils sous tes yeux mais tu dois rester fort. Tu fais tes 8 heures dans une ambiance hardcore. Un travail pour manger qui nous nourris tes remords. Tu rentres épuisé, fatigué de ton sort. Tu voudrais dormir, mais t'es déjà mort.
Nivek, déjà mort. Pour évoquer l'enfer de l'esclavage moderne en vigueur dans l'empire de la logistique qui broie des vies, des corps et des âmes.
Oh oui, il y a quelques boulots promis par le méga-canal ou par le projet Green Dock du port de Gennevilliers, contre lequel lutte une pléiade de syndicats, associations environnementales et collectifs, dont les soulèvements de la Seine. Et cette lutte contre Green Dock, elle est évoquée dans Première Secousse, remarquable bouquin signé Les Soulèvements de la Terre, qui raconte notamment l'émouvante rencontre et alliance entre militantes et militants écologistes et le monde ouvrier de la logistique.
Nous, on lutte contre une infrastructure, et ça, c'est vraiment un truc du logiciel Soulèvement de la Terre aussi. Pour bien lutter contre l'infrastructure, il faut mener des enquêtes contre ça, il faut comprendre comment ça marche. Et le meilleur moyen, c'est de discuter avec les travailleurs, travailleuses des secteurs, ce qui n'est pas toujours possible. Hein. Mais nous, en l'occurrence, on avait une porte d'entrée là, avec un entrepôt logistique, avec un syndicat de base CGT très très combatif. Et de mener des luttes avec eux, de discuter avec eux, ça nous fait découvrir plein de choses sur le fonctionnement de notre infrastructure contre laquelle on lutte. Ça nous fait comprendre des trucs importants, c'est de comprendre les conditions de travail, de comprendre vraiment les conditions d'exploitation dans les entrepôts logistiques, c'est vraiment dégueulasse. Quand on nous dit, ouais, le taylorisme c'est fini, maintenant, non, mais l'entrepôt logistique c'est vraiment du contrôle ouvrier très fort, les ouvriers sont vraiment très très contrôlés. C'est aussi une alliance entre nouvelles technologies et contrôle, tout marche à base de scanners, on scanne tout le temps des QR codes ou des codes barres et tout est contrôlé, surveillé, la productivité, le rythme, les gestes répétitifs, le froid l'hiver, le chaud l'été, bref, c'est vraiment un truc qui est rude et de comprendre ça, c'est hyper important. C'est important pas seulement dans le cadre de ces luttes locales, en fait, les ouvriers de la logistique aujourd'hui en France, c'est plus d'un million de personnes, quoi. C'est un secteur qui a explosé depuis les années 80 et qui est venu en fait un peu remplacer le secteur ouvrier traditionnel, les ouvriers de l'automobile, tous les ouvriers de l'industrie manufacturière où on fabrique des objets. Ça, ça a été en partie délocalisé. Bon, il en reste pas mal quand même, mais ça a été en partie délocalisé. Mais il y a d'autres mondes ouvriers qui sont réapparus depuis et qui sont moins visibles. Donc on fait comme si les ouvriers avaient disparu, mais en fait, c'est juste qu'on n'a pas compris leur transformation. Donc c'est important parce qu'il y a une force ouvrière aussi dans la logistique qui est un point d'appui pour les luttes. Alors aujourd'hui, c'est un secteur qui n'est pas très mobilisé parce que c'est hyper dur de se mobiliser depuis l'entrepôt.
Beaucoup d'emplois précaires, donc voilà, quand on moufte, on se fait dégager.
Voilà, beaucoup d'intérim, beaucoup de répression.
Beaucoup de travailleurs sans papier.
Mais justement, quand on discute avec les camarades des entrepôts, ça nous permet de dépasser un peu le côté misérabiliste du monde ouvrier, parce qu'en fait, on se rend compte que ça lutte en permanence dans l'entrepôt. Il y a beaucoup de conflictualité dans l'entrepôt, même dans les endroits où il n'y a pas de syndicat, ces endroits où ça bataille, où le « nous », les ouvriers, le « eux », les patrons, il est marqué de façon très nette. Ça se bouscule, ça s'insulte, ça... voilà, il y a du rapport de force au quotidien, pas toujours organisé, mais il existe. Et quand on comprend ça, on se dit que en fait, le secteur de la logistique, c'est une espèce de grosse cocotte minute, quoi. Et si un jour ça pouvait déborder, ça ferait un ravage, parce que quand eux, ils se mettent en grève ou qu'ils s'arrêtent de travailler, il n'y a plus rien qui marche. C'est vraiment eux qui font tourner la machine aujourd'hui. Et il y a des endroits où c'est arrivé. Dans le nord de l'Italie, par exemple, au début des années 2010, il y a eu des très gros conflits dans la logistique et ça a fait un carnage. Et aujourd'hui encore, c'est un secteur qui est fort là-bas et donc ça pourrait très bien arriver chez nous, donc autant le préparer dès maintenant, quoi.
Ça permet aussi de relever cette espèce d'escroquerie sémantique qui visait peut-être à exploser la classe ouvrière, mais on a mis dans la tête des gens qu'en France, il n'y a plus d'ouvriers et que ces gens-là qui travaillent dans la logistique, c'est surtout pas des ouvriers, c'est des gens qui travaillent dans le service, c'est des gens du tertiaire. Ça fait plusieurs fois en fait que tu utilises très concrètement le terme ouvrier et pas tertiaire, service.
Ouais, c'est hyper important de comprendre justement cette transformation des mondes ouvriers, c'est qu'il y a de plus en plus d'ouvriers du tertiaire. Aujourd'hui, il y a la moitié des ouvriers en France, ils sont dans le tertiaire. Et quand je dis moitié des ouvriers, c'est parce que c'est l'INSEE qui les calcule comme ça, l'Institut National de la Statistique. Parce qu'eux, ils ont besoin de faire des stats justes. Et pour faire des stats justes, ils savent très bien que pour dire si c'est ouvrier ou pas, l'enjeu, c'est pas juste est-ce qu'on fabrique ou pas un produit, c'est est-ce qu'on travaille dans quelque chose qui ressemble à une usine avec suffisamment de bonhommes pour que ça soit de la taille d'une usine, avec des gestes répétitifs, etc. etc., etc. Donc l'INSEE, il classe ces salariés-là comme des ouvriers. Et ils ont raison, en fait, parce que c'est les nouveaux ouvriers.
Et ouvrières.
Et ouvrières. Il y a 85% d'hommes, quand même. C'est pour ça que je dis des bonhommes. C'est quand même très, très masculin. Et de même qu'il y a beaucoup, beaucoup de travailleurs racisés. Pour faire tourner la machine, les patrons, ils ont besoin d'embaucher majoritairement des travailleurs racisés et majoritairement des hommes. Et tout ça, ça instaure un climat, des conditions de travail spécifiques et ça fait partie du modèle d'exploitation.
Tu as évoqué le colonialisme tout à l'heure. Souvent, on utilise le petit préfixe néo, tu sais comment on dit néo-nazi ou néo-colonialisme. Et parfois, je m'interroge en me disant, mais qu'est-ce que ça a de néo si ce n'est que les outils ont changé. Avant, il y avait le fouet, maintenant, il y a Internet. Et ça renvoie aussi à la notion d'esclavage.
Ouais, c'est un terme qu'ils utilisent beaucoup, hein, les ouvriers, notamment ce dont je parlais tout à l'heure, l'esclavage moderne, c'est un terme qu'ils utilisent.
Je me barre et j'ai pas yep. Nique le stress et les palettes. Du coup je te parle pas d'or et je représente pas de caïd en calèche. Mets des paires au dos pété dans les entrepôts scellés de ta démocratie libertaire qui effrite des pauvres dans l'OCB. Ce track n'aura rien d'exotique. Je préfère parler d'ouvriers que de bigrave et de mythos névrotiques. Au propre autant que possible, vos modes de vie montent éreintés. Une pour ce type mort sous un camion qui n'ira plus pointé. Je les ai portés vos armoires, ça a payé mes études à 40 degrés en plein cagnard. Cette foutue boîte de déménagement de merde, j'ai encore rêvé d'elle et mes vertèbres s'en souviennent. J'ai vu des hommes usés, bosser pour des boss rusés, pour des sommes minables, vu leur santé s'épuiser. Remplir des semis puis les vider comme si j'étais poignard, sous des regards vides, des mâchoires broyant des pas bagnards. Pareil que je manque de légèreté, connard, c'est quoi ta vie? T'es au lycée, à la fac, papa, maman t'habille. Préfère être le témoin de gens qui vous mettent mal à l'aise, dont vos rappeurs en carton ne parlent jamais. Ça n'étue pas la hate. J'ai pu apporter des meubles, mais ces darons le sont encore. Sur l'état du dos de mon père, nos putains de vie n'ont rien d'hardcore. Pense-y chaque matin où tu vas chialer sur ton sort. Le slip entre la chatte et le confort.
Essaie de monter en haut des listes, TC mettra du mal. C'est pour mes bosseurs au Fenwick TCL 7h du mat. Les trimardeurs de Vénitieux, les abonnés aux deux roues. Pour les rambardes, les glissières, mes albanais au feu rouge. Pas les gamins de la presqu'île, les éboueurs du Grand Lyon. Qu'ont développé des techniques pour sortir de la banlieue. Tous ceux qui portent des valises, tous ceux qui parlent de respect. Ceux qui bossent tellement pour la mif qui vont pas manifester. Un système conquis à la base, comment veux-tu qu'on s'en sorte? L'écart se creuse et Barabas, toujours cloué à son sort. Ah, je peux t'en faire des métaphores, ça vaudra pas le coup de la vie. Nice d'Aaron qui se réveille pour galérer dans le froid sous la pluie. Changerai pas d'attitude, j'ai pas me faire des névroses, des complexes. Ils sont tous azimuts, on met juste les choses dans leur contexte. Moi j'ai pas changé d'adresse, qu'est-ce que tu fais pour les vacances? En vrai, c'est pas compliqué, on fait juste tourner la France. Moi je suis dans le futur, des corbeaux volent autour de ma tombe. Le système dégringole, retour de flamme, retour de bâton. Mais j'oublie pas ce qu'on m'offre. Le cœur glacé à la salle, c'est son rave de ouf. Le coffre rempli de ferraille à la salle. Prolétaire, tu perds ta vie sur un pétrolier de merde. Pendant que les gens y mettent des millions dans un collier de perles. En vrai si tu cherches ta solution, Bello crois pas que je l'ai. Pas qu'au bord des nerfs à gratter 20 balles pour un pack de lait. On demande pas que de l'aide, les gens c'est pas des chiens. On se casse le cul pour des choux, nos darons c'était pas des schmitts. Moi c'est Robin, bientôt je vais me barrer dans le sud. Eux ils pourront prendre des paillettes et plus les carrer dans le cul. Parce que les enfants de la galère se demandent plus comment tu fais. Ils regardent la gueule d'un empire qui a l'air comme amputé. Heinz sa part en sucette, à toi t'as pas rendu compte. Vivre entre stress et palette, je crois bien que je vais te faire un tuto.
Stress et palette, signé Robsé et Lucio Bukowski. Avant de reprendre la discussion avec ce militant des soulèvements de la Seine, on parle aujourd'hui esclavage moderne dans l'empire de la logistique.
Esclavage moderne parce que les conditions de travail sont très rudes, parce que toutes les négociations syndicales sont hyper rudes, parce que la répression est très rude, et parce que, de façon très simple, dans leur entrepôt, tous les patrons sont blancs, et tous les bureaux sont blancs, et tous les ouvriers sont noirs et arabes. Et quand je dis tout, peut-être qu'on peut trouver une exception ou deux, mais sur 170 salariés, c'est vraiment peanuts, quoi. C'est vrai, la séparation, la rupture, elle est très très nette, quoi. Et encore pire, si on regarde le côté qui ressemble plus à l'entrepôt. Donc les camions poubelles, c'est l'équivalent des camions de l'entrepôt qui font la livraison. Et l'entrepôt logistique, du côté déchets, c'est l'équivalent des usines de tri des déchets. Il y en a pas mal sur le port de Gennevilliers, donc nous on s'intéresse à ça aussi en ce moment. C'est là particulièrement qu'il y a un très très gros problème de travailleurs sans papier. Et vraiment ça, dans les usines de tri des déchets, c'est que des travailleurs, travailleuses racisés. Et en plus, beaucoup des primo-arrivants, des gens qui viennent d'arriver en France, qui ne maîtrisent pas très bien la langue. Et il y a vraiment une stratégie de recruter en priorité ces gens-là pour les faire travailler dans des conditions mais dignes de Zola, sur des tapis, là, comme Charlie Chaplin un peu, ils sont sur des tapis à trier les déchets. Et ça, c'est un secteur où on aimerait bien mettre un pied, nous aussi, dans les années à venir.
Et évidemment, ce sont des personnes extrêmement vulnérables et on se doute bien que la moindre revendication, récrimination, augmentation de salaire ou je sais pas quoi, est quasiment impossible. Ouais, quoique j'ai en tête cette grève de femmes racisées qui faisaient les ménages et qui avaient eu le courage et le cran de se mettre en grève alors qu'elles étaient dans une position d'extrême vulnérabilité.
Nous, il y a moins d'un mois, le 18 septembre, là, qui était une grosse journée de grève, on était sur le port de Gennevilliers devant une usine de tri qui est un sous-traitant de Paprec, qui est un des géants du déchet dégueulasse en France aujourd'hui. Et il y avait un piquet de grève avec un blocage de l'usine de tri des déchets par des travailleurs sans papier, qui étaient soutenus par les Soulèvements de la Terre, qui étaient là, par XR Île-de-France, qui étaient là, par les ouvriers Géodis de la CGT Géodis, qui étaient là aussi. Donc on se retrouve tous sur ces endroits-là. Donc il y a des choses qui existent, quoi.
Alors vous, les méchants écolos, éco-terroristes, etc., vous passez votre temps à critiquer, mais qu'est-ce que vous proposez alors ?
Alors, l'histoire du contre-projet, c'est quatre grands axes pour l'instant. C'est l'idée de transformer le travail, C'est le premier axe. On veut essayer d'imposer une espèce de charte ou quelque chose comme ça, qui serait un outil pour aller embêter les mairies, les gestionnaires du port. Pas les entreprises directement, ça c'est les syndicats qui font ça, mais tous les gens qui sont aussi responsables de ça, localement. Le maire de Gennevilliers, par exemple, je pense qu'il est en partie responsable de ce qui se passe sur le port, c'est son territoire. Et dans cette charte, il y aurait l'idée d'imposer des seuils très bas d'intérim, de sous-traitance, ou voire pas du tout si on y arrive, d'intérim ou de sous-traitance, de travailler aussi sur les sans-papiers. Il y a beaucoup de sans-papiers sur le port de Gennevilliers, notamment dans le déchet, il y a plein d'entrepôts de déchets qui font du flux de déchets. Donc voilà, ça c'est l'axe travail. Après, il y a un gros axe qui est l'axe transport, donc du fret sur le port et moins de camions. Là, c'est horrible, c'est vraiment une énorme usine à camions, ce port. Et puis, du fluvial aussi, parce que nous, on n'est pas contre le fluvial. Mais en fait, il y a un truc très simple. L'entrepôt Green Dock, là, il est sur les berges pour faire croire que ce sera du fluvial, mais c'est faux, on l'a dit. Mais il y a une infrastructure sur le port pour accueillir du fluvial à beaucoup plus grande échelle. Ça s'appelle des darses, c'est des entrées d'eau qui rentrent sur le port de Gennevilliers et qui sont connectées à des entrepôts. Et en fait, aujourd'hui, ces darses, elles sont monopolisées par le BTP. C'est vraiment grave à sable, c'est que ça. Alors que si on voulait ramener des légumes sur le port avec des bateaux, en fait, on pourrait, mais il faudrait virer un peu du BTP pour laisser de la place. Donc ça, c'est le côté transport. Mais le transport, c'est bien de changer les modes de transport. Mais en fait, le troisième axe, c'est plus fondamental à notre avis, c'est qu'il faut changer le mode de logistique. Donc faire en sorte que la logistique qui a lieu sur le port de Gennevilliers soit utile pour le territoire. Donc ça peut être une logistique alimentaire par exemple. Du côté du BTP, ça peut être du réemploi aussi. Il y a déjà des boîtes qui font du réemploi sur le port de Gennevilliers et qui sont pas si mal que ça en fait. Réemploi du bois, réemploi de plein de matériaux. Il y a des trucs de dépollution de la terre, il y a des idées là-dessus. C'est des idées qui manquent de place en fait, ils n'ont pas de terrain ou alors ils sont mis loin en Île-de-France. Bah, en fait, laissons-leur de la place sur cet endroit-là, qui de toute façon, c'est pas un endroit... Enfin, il est trop pollué pour qu'on puisse y faire autre chose. Et il y a quand même un dernier axe, même si c'est pollué, qui est un axe de renaturation. Renaturation, c'est les berges. Il faut laisser un espace tampon entre le port de Gennevilliers et la Seine. Et cet espace tampon, à notre avis, il faut soit développer des activités un peu cool de dépollution, peut-être de ferme urbaine. La CGT, ils font vachement ça, ils sont à fond sur les trucs de ferme urbaine. Comme quoi, la CGT s'intéresse à ces trucs-là. Mais peut-être aussi, on pourrait laisser à l'état sauvage. En fait, laisser 10 mètres de terre à l'état sauvage entre la Seine et la zone industrielle, bah, ça permettrait de faire en sorte que les trams bleues et les trams vertes, vous savez, ces espèces de corridors naturels, puissent fonctionner correctement. Et on en a besoin, parce que la biodiversité ici, c'est pas incroyable. On en a un peu, laissons-lui un peu de place, quoi.
C'est souvent une pièce maîtresse, d'ailleurs, dans les luttes. Hein. On pense à l'outarde canepetière avec les bassines, ou tel scarabée pour telle autoroute, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être actionné, ça? Est-ce qu'il y a des espèces protégées menacées par ce projet? Parce que, voilà, ce sont des mésanges qui se sont mises à nicher, qui ont retardé la 69 de 6 mois. Est-ce que vous pouvez vous servir de ça?
Ouais, bah on en a plein et on a eu tout un débat pour savoir laquelle on choisissait comme symbole. Je vais commencer par ça parce que c'est marrant quand même. Par exemple, il y a des martins pêcheurs sur place. L'entrepôt, les martins pêcheurs, c'est fini, ils vont tous disparaître. Et nous, on s'est demandé, est-ce qu'on prendrait pas le martin pêcheur comme symbole? C'est joli, c'est un
beau,
peu chic et tout.
Tout le monde aime les martins.
Tout le monde aime les martins pêcheurs.
Mais tout c'est le monde aime les martins pêcheurs.
Tout à fait. Mais il était déjà pas mal pris dans les luttes et en fait, il est pas facile à voir. C'est un peu un truc de spécialiste, le martin pêcheur. Faut passer du temps dans ce coin-là. C'est pas évident. On avait un autre oiseau, un peu moins chic, mais qu'on aime bien et qui est très très présent sur place, c'est le cormoran. En fait, il y a tous les ans 200 à 300 cormorans qui nichent sur l'île Saint-Denis, à la pointe de l'île Saint-Denis. Et en plus, on trouvait ça vraiment intéressant parce que, je l'ai dit tout à l'heure, l'entrepôt il va mettre la zone à l'ombre. En fait, le cormoran, il a un problème, c'est qu'il ne sécrète pas le truc qui permet d'imperméabiliser les ailes. Tous les canards et tout, ils sont ça. Le cormoran, il a un problème de l'évolution, on ne lui a jamais donné ça. Et c'est pour ça qu'il a tout le temps ses ailes comme ça, il est obligé de se faire sécher les ailes. Et les cormorans se mettent juste en face du projet d'entrepôt et sont tous en train de sécher leurs ailes pendant tout l'hiver, on les voit là-bas. Et bien sûr, ils ne pourront plus le faire. Donc on a choisi ce symbole-là, on se trouvait que c'était aussi un oiseau un peu populaire, qui est facile à voir. Tout le monde connaît les cormorans. Et donc voilà, nous on est parti sur le cormoran. C'était pour mettre un peu aussi l'accent sur le côté populaire de cette lutte, sur le territoire populaire dans lequel on est. Et ça, c'est un gros enjeu quand même. On n'en a pas beaucoup parlé, mais un des gros trucs qu'on répète tout le temps, c'est « Ok, on protège les oiseaux ». Mais il y a un gros truc d'inégalité environnementale, pour ne pas dire racisme environnemental, avec ce projet. Quand on voit que là, à Paris, on nous parle avec les JO de baignade tout le temps dans la Seine, on a l'impression que la Seine va redevenir un truc super. Nous, en banlieue nord, on a encore droit à des projets d'entrepôts logistiques géants. Et ça, c'est un gros axe sur lequel on veut taper un peu fort, quoi.
Ça s'appelle du classisme hein, aussi.
Ça marche aussi avec le classisme.
Et donc ça marche d'invoquer le fait de vous menacer des espèces protégées, je pense évidemment dans un tribunal.
Ouais, ça peut marcher devant un tribunal, mais quand même il y a un truc particulier sur cette lutte, c'est que devant les tribunaux, ce qui marche bien, c'est les espèces rares, les espaces de nature vraiment un peu sauvages à sauvegarder, tout ça. Tant mieux pour les luttes qui peuvent utiliser ça. Nous, on est en banlieue nord. C'est pas la nature sauvage chez nous. C'est une nature vraiment chelou. On veut travailler ça. On veut travailler ça, pas faire semblant que ce soit de la nature sauvage. Dire, voilà, elle est comme ça, la nature chez nous, il faut qu'on travaille avec. Dans les espèces qu'on n'a pas encore citées sur place, il y en a une qui est très très présente et que nous, on aime bien, c'est les perruches.
Ah oui,
il y a plein de perruches là-bas, donc c'est... Voilà, la perruche, c'est un oiseau bizarre qui, normalement, ne devrait pas être là.
C'est du continent sud-américain, non, la perruche ?
Oui, c'est Amérique du Sud, ouais. Amérique du Sud.
Ça nous a beaucoup surpris, nous, quand on est arrivé sur la scène aux abords de Paris. Bah, voilà, les perruches, perruches.
En fait, nous, on a été chercher un peu l'histoire de ces perruches, qui est connue, en fait, qui est intéressante pour nous, parce que c'est une histoire de logistique. En fait, il y a un conteneur qui est tombé à Orly, dans les milieux des années 90, un conteneur de perruches. Et petit à petit, sont apparues les perruches d'Orly. Et tout autour d'Orly, il y a eu des perruches qui sont installées. Et là, actuellement, elles ont colonisé plein d'autres endroits de l'île de France. Et elles sont aussi chez nous. Et en fait, on ne va pas les supprimer. Les perruches, elles sont là, c'est comme ça. Et on fait avec. Et en fait, c'est tout un écosystème qui est comme ça. Parce que la pointe sauvage dont je te parlais tout à l'heure, de l'île Saint-Denis, où il y a la réserve ornithologique, en fait, c'est très joli, c'est un peu sauvage, il n'y a pas d'accès humain, c'est non anthropisé, donc c'est vraiment chouette de ce point de vue-là. Mais cette zone, en fait, c'est une butte, et la butte, c'est un amoncellement de gravats. Sur des années et des années, les premiers gravats, c'est les chantiers d'Haussmann, les percées d'Haussmann qui ont été déposées là. Ça a été tassé jusqu'au chantier de l'A86 qui passe juste à côté, là, il y a plein d'autoroutes chez nous. Et en fait, c'est ces tas de gravats qui ont été laissés à l'abandon, qui font qu'aujourd'hui, on a une zone ornitho sur la pointe de l'île Saint-Denis. Donc c'est ça la nature chez nous, c'est une nature férale, on appelle ça, ou une troisième nature un peu chelou, un peu hybride, on est un peu sur les ruines de l'industrie, et en même temps, bah voilà, c'est là, donc travaillons avec ça, quoi.
J'ai entendu parler d'un procès de la Seine. Vous avez quelque chose à voir avec ça, vous ?
Alors oui, il y a tout un axe de ces luttes en Île-de-France, qui est l'idée de faire reconnaître la Seine, de lui donner des droits. Dans la continuité de ce qui avait été fait sur la Loire, autour du Parlement de la Loire, donc c'est des dynamiques qui existent un peu ailleurs et qui sont intéressantes parce qu'elles peuvent faire ressortir plein de sujets, mais je pense que c'est des champs de tension aussi. Pour le dire un peu vite, il y a des super camarades qui s'intéressent à ça, qui font des super trucs. Bon, c'est pas ma spécialité pour être honnête, mais il y a aussi la mairie de Paris là, qui s'est mis à fond là-dedans. Il y a plein d'événements autour de la Seine organisés par la mairie de Paris, des consultations citoyennes, uniquement pour les Parisiens d'ailleurs, la banlieue ne peut pas y participer. Et voilà, c'est un peu un enjeu de lutte, la question des droits de la Seine. À mon avis, on peut en faire des choses intéressantes, mais ça peut aussi rapidement être repris par des acteurs institutionnels qui n'ont pas a priori les mêmes objectifs que nous, quoi.
Si tu le veux bien, on va revenir sur cette histoire de baignabilité de la Seine. Jacques Chirac l'avait promis. On nous en a fait des caisses dans les médias dominants sur la baignabilité de la Seine, qui est bonne donc pour Paris intramuros, mais pas pour la plèbe dans la banlieue de Paris.
Moi, pour être honnête, j'y croyais pas à cette histoire de baignabilité. Je sais pas, ça me semblait trop bizarre, moi, de me baigner dans la Seine il n'y a pas si longtemps. Et en fait, même pour le dire encore plus clairement, moi, j'avais pas de rapport sensible à la Seine. Moi, je viens des bords de Loire à l'origine et je rêvais de la Loire tout le temps, tout en habitant sur l'île Saint-Denis, alors que la Seine était autour de moi, quoi. Parce qu'on n'a pas beaucoup ce rapport-là à la Seine et c'est vraiment un truc à travailler dans cette lutte-là aussi, quoi. Et en fait, il s'est passé un truc un jour. On a été devant le projet d'entrepôt Green Dock, là où le chantier a commencé, mais ils n'ont pas construit l'entrepôt, ils sont en train de démolir des anciens trucs. Et on a été là-bas en se disant on met des maillots de bain, des bonnets de bain, on prend des chaises longues et tout, et on fait des photos et des vidéos pour montrer qu'on veut, nous on veut que cet endroit-là il soit différent, quoi. Mais c'était pour faire de la com. Et en fait on y va et il y a une camarade sur la route qui nous dit « Ah mais moi je vais me baigner, moi je me baigne souvent dans la Seine. » Et on était tous un peu interloqués, donc on fait nos photos, nos vidéos, et à la fin, grand plouf, tout le monde se jette à l'eau. Et moi ce moment-là, ça m'a retourné la tête, franchement. On s'est baigné à un endroit en face de la zone Natura 2000 dont on parlait tout à l'heure. Derrière, il y avait un peu de nature aussi. On n'avait vraiment plus du tout l'impression d'être en plein 93, quoi, en pleine banlieue nord. Et ouais, gros effet sensible sur l'approche du fleuve depuis. Moi, mais d'autres aussi, on a tous travailler un peu ça, quoi. On s'intéresse à ce qui se passe dans la Seine, aux poissons, aux oiseaux, on regarde un peu ça. Mais pas seulement, en fait, on regarde, et dans la lutte, on a vachement fait gaffe à ça, les usages populaires qui existent déjà sur les berges de Seine. Le barbecue, par exemple. Barbecue sur berge de Seine, en banlieue nord, c'est un gros truc trop cool. Il faut laisser des espaces là-dessus. Les balades, les loisirs.
Avec saucisses véganes ou pas.
Saucisses véganes ou pas, ou saucisses merguez CGT, si vous voulez, c'est très bien aussi. Et après, il y a la pratique du canoë ici. Nous, on fait plein de trucs en canoë maintenant. Il n'y a pas longtemps, on a fait une action où en fait, on a été jeter des bombes de graines sur le chantier pour refaire fleurir plein d'espèces pionnières. Comme en fait, on y allait en vélo et que traverser le port de Gennevilliers en vélo, il y a un risque très fort de se faire arrêter par les forces de l'ordre, ce qui a été le cas. Le cortège à vélo s'est fait arrêter. Il a réussi à passer quand même. Mais on avait prévu au cas où un cortège en canoë qui passait par la Seine. Et du coup, les deux ont réussi et ont atteint la Seine. Donc, on travaille ce truc-là dans la lutte. On utilise le fleuve, ce qui est une forme d'alliance un peu avec le vivant, quoi. On s'allie avec le fleuve pour travailler avec lui et on s'y intéresse. Et c'est important, ouais, de changer un peu, de se réapproprier ces espaces-là.
Pour peu qu'on boive pas la tasse et puis qu'on se douche quand même correctement en sortant de l'eau de la Seine.
Voilà, c'est comme tous les fleuves, on se baigne plutôt en été, quand il n'y a pas eu de grosses pluies. Quand il y a des grosses pluies, il ne faut pas se baigner la semaine d'après, quoi.
Parce que ça charrie des pesticides.
Alors nous, ce n'est pas les pesticides, on n'a pas trop de terres agricoles proches. Nous, le problème, c'est qu'il y a la ville autour. Et donc quand il pleut, l'eau des routes et des rues, elle tombe dans le fleuve. Et aussi, historiquement, les égouts débordaient dès qu'il pleuvait un petit peu. Et ça, ça a changé en fait. Bon, effectivement, les travaux qui ont été faits là dans le cadre des JO, mais aussi avant, quoi, font qu'il y a beaucoup moins ça. Quand on fait les tests de baignabilité là, en été, quand il n'y a pas de grosses pluies, les tests ils sont bons dans la Seine. Après, c'est des tests qui reposent que sur certains indicateurs. En vrai, il faudrait regarder beaucoup plus que ça. Il y a plein de choses à améliorer encore avec les fleuves. On n'est pas sorti de l'auberge avec ça. Mais ça se fait, quoi. Il faut faire juste un peu attention.
En tout cas, ce dont tu parles, là, c'est un moment de révélation.
Pour moi, après...
Je fais référence à ta baignade, quoi.
Ouais, il y a des gens sur l'île Saint-Denis, notamment, pour qui c'était le cas avant, qui nous ont transmis ça, quoi. Il y a un groupe qui s'appelle les baigneuses, un autre qui s'appelle les ourques polaires. C'est des gens qui se baignent tout le temps dans la Seine. Les ourques polaires, c'est toutes les semaines, ils font ça, été comme hiver. Okay. Et donc, il y a des gens qui font un peu ça, mais qui, jusqu'à il y a peu de temps, étaient un peu des extraterrestres, y compris pour moi. Et moi, je pense vraiment maintenant que ça va être de moins en moins le cas. On va en parler. Il va y avoir des épisodes de canicule très forts en banlieue nord. Et on sera les premiers touchés dans ces épisodes-là parce que chez nous, tout est bétonné. Il y a un moment où la Seine et la baignade dans la Seine, ça va se poser, quoi. La question va se poser, c'est sûr. À l'île Saint-Denis, notamment, comme c'est une île de la Seine, il y a deux rives. Il y a un endroit, c'est un grand bras de Seine où il y a la navigation fluviale. Et là, c'est le courant un peu fort. Et de l'autre côté, le courant est plus faible. L'eau, elle bouge quand même, quoi. Et l'été, l'eau, elle est transparente, en fait. On voit ses pieds, quoi. Ça ne veut pas dire qu'elle est propre, il faut continuer de la tester et tout, mais c'est baignable sans tomber malade. Il ne faut pas boire de l'eau, faut pas, y a des choses comme ça, mais ça c'est valable dans toutes les rivières quoi, et dans tous les fleuves.
Tu mentionnais tout à l'heure là, qu'au moment où on se parle, donc mi-octobre 2025, on en arrive à une fin de saison des soulèvements de la Seine. Comme dans toute bonne série, donc fin d'une saison, ça veut dire que ça on annonce une prochaine.
Oui, la saison, il y aura sûrement une saison 2, c'est en cours de réflexion. Mais en attendant, chaque lutte progresse et chaque lutte a son agenda aussi, quoi. Et Green Dock a son agenda, en ce moment c'est l'enquête publique de Green Dock. Donc c'est le truc officiel de l'État là. On a décidé qu'on allait y participer parce qu'il y a un enjeu pour nous à montrer au maire qu'il y a une très forte opposition et qu'elle est très large cette opposition. Donc on va y aller à fond et on espère que le maire il va pas déposer le permis de construire. Il a dit qu'il le ferait peut-être pas, donc voilà, maintenant il faut qu'il passe aux actes. Et puis nous on va faire aussi bientôt les premières grandes présentations du contre-projet, qui a bien avancé en tout cas. Où on va présenter presque une méthode plus qu'un contre-projet fini pour continuer à travailler ensemble. Si jamais tout ça marche pas et que le maire de Gennevilliers décide de déposer le permis de construire, bah nous on va passer à la vitesse supérieure quoi.
Ça veut dire quoi ça?
Bah on était là dans une stratégie un peu de dialogue avec ces instances là, si c'est forcé, donc on a obtenu tout ce qu'on voulait, mobilisation locale, l'autorité environnementale a dit que c'était nul, l'enquête publique va sûrement montrer qu'il y a plein d'oppositions, et bah s'ils veulent forcer, bah nous aussi on forcera quoi, il y a vraiment cet enjeu là de savoir monter le rapport de force, si ça bloque et si eux ils forcent quoi.
Je vois à peu près comment on peut désarmer une bassine, un cutter suffit. Un truc comme Green Dock, un cutter suffira pas.
Alors c'est un chantier, donc il y a plein de manières de perturber sûrement un chantier. Mais c'est aussi une zone logistique, et les zones logistiques, C'est une force et une faiblesse un peu le flux dans le capitalisme. C'est une force parce que ça se diffuse partout et que c'est vraiment très étendu. Mais il y a toujours des endroits où la logistique, elle crée des goulots d'étranglement, des choke points, on appelle ça en anglais. Et si on arrive à la bonne heure, au bon endroit sur un choke point, on peut faire un gros bazar. Et comme nous, on connaît bien les ouvriers du port, on a les horaires et donc on fera des gros bazars s'il faut le faire, quoi.
Ça me fait venir à un exemple. En juillet 2024, lors du village de l'eau, il y a eu une manifaction au port de la Palisse, qui est le port de La Rochelle, port négrier, colonial, et qui le reste. Tout le monde s'est acheminé en hurlant, et tout le monde déteste la Palisse. Rien que l'annonce d'une manifestation devant le port, avant même qu'elle ait lieu, juste la rumeur, le bruit d'une action éventuelle, de gens qui restent pointés devant les portes du port a suffi à paralyser la moitié du port.
Il faut savoir utiliser tout ça, quoi. Nous, les soulèvements de la terre, mais d'autres aussi, hein, dans l'idée qu'il faut élargir le répertoire d'action, quoi. Donc nous, on fait l'enquête publique en ce moment-là. Bon, c'est pas le truc qu'on préfère faire, mais on le fait sérieusement. Mais on sait aussi faire d'autres choses, des blocages. Et entre les deux, il y a des actions naturalistes, des gestes naturalistes, il y a du tractage, des soirées publiques. Voilà, il faut ouvrir le répertoire d'action et faire plein de choses. Et ouvrir le répertoire d'action, ça fonctionne aussi avec une composition large. On essaye de composer ensemble. Et l'enjeu, c'est qu'on soit toujours d'accord sur ce qu'on fait. Quand on fait un blocage, nous, on a envie que les riverains, les camarades de la CGT, que tout le monde se mette d'accord sur « Ok, en fait, on va faire ça. Est-ce que ça vous va? Est-ce qu'on est ok? On le fait tous ensemble? » Ou alors, on peut le faire chacun de notre côté, mais personne ne va se désolidariser et on reste un peu soudés, quoi.
Est-ce que vous organisez aussi des réunions publiques pour informer les riverains, les riveraines? Et si oui, comment est-ce que les gens prennent ça?
Alors ouais, on fait très régulièrement des événements autour de ça. Donc il y a tous les réseaux sociaux, soulèvement IDF,
Île-de-France.
Ouais. Il y a un canal Telegram aussi, Soulèvement de la Seine, qui permet de suivre tout ça. Il y a des mailing lists, donc vous pouvez taper Stop Green Dock. Il y a un Linktree Stop Green Dock où on peut suivre tout ça. On diffuse au maximum pour que les gens soient au courant, avec l'idée de rester ouvert. Très régulièrement, on fait des événements publics, donc tenez-vous informés. Nous, c'est vraiment des luttes qui sont ouvertes à toutes et toutes.
Si on est un peu loin ou qu'on n'est pas disponible, est-ce qu'on peut vous soutenir d'une manière ou d'une autre, financièrement par exemple? Ou alors est-ce qu'on met des sous dans la caisse commune des soulèvements de la terre qui redistribue?
Ouais, vous pouvez, il y a des sous dans la caisse des soulèvements, des sous dans la caisse de Stop Green Dock, c'est pour payer les frais juridiques en cas de recours si on en a besoin. Si vous tapez Stop Green Dock sur internet, vous allez tomber très rapidement sur le site des soulèvements de la terre et sur le site des riverains où il y a plein d'infos à trouver. Ou si vous tapez Linktree Stop Green Dock, vous tomberez sur le Linktree des soulèvements de la terre locale, du comité local. Donc ça, c'est des moyens de soutenir. Il y a des pétitions aussi sur ces trucs-là où vous pouvez y participer. Il y a l'enquête publique, tout le monde peut y participer. Mais en vrai de vrai, on a surtout besoin qu'il y ait des luttes partout comme ça. Plus il y aura de luttes sur ces infrastructures-là, là je pense aux infrastructures logistiques en particulier, plus ça deviendra compliqué. Le fait qu'aujourd'hui, chaque projet autoroutier un peu gros, chaque gros projet d'entrepôt aussi en France est contesté, il y a partout des luttes qui ne sont pas forcément très connues mais qui émergent autour de ça, ça complique les choses pour eux, quoi. C'est ça le vrai enjeu à mon avis.
Avec la conscience que quand je tends ce micro là sur ce coin de Seine et de banlieue parisienne, en fait on parle d'ici mais on parle d'ailleurs. Parler de Green Dog, c'est parler de ce qui se passe sur tout le territoire national et même partout dans le monde en fait.
Ouais, en France en ce moment, tous les ans, il y a 2 millions de mètres carrés d'entrepôts qui sont construits. Donc il y a de quoi faire. Allez-y, cherchez les projets d'entrepôts près de chez vous. Vous allez tomber sur des projets d'artificialisation, sur des terres agricoles, sur des zones naturelles. Il y en a plein en ce moment. Et en plus, il y a un boom immobilier. En fait, c'est des stratégies immobilières de géants de l'immobilier qui font ça pour faire de la spéculation. Donc c'est vraiment dégueulasse. Il faut y aller, il faut les attaquer, quoi.
Et voilà les amis, c'est ici que prend fin cette conversation que vous pouvez télécharger via notre site polemixetlavoixoff.com. Avant qu'on se retrouve très bientôt sur votre radio encore libre, mais pour combien de temps? Stop Green Dock, ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut!